RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 19h02, vous êtes dans la deuxième heure d'ici c'est Willy sur RMC jusqu'à 20h. Et enfin, avec deux sportifs beaucoup plus disciplinés que notre ami Franck Leboeuf, qui nous a fait passer une première heure. C'était difficile, hein.
Ah, Francky, c'est
vrai. Il avait mangé un peu trop de myrtilles, je pense, aujourd'hui.
Peut-être.
Mais en tout cas, Laure Le Payeur, Rio Mabouba, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, Willy, bonsoir à tous.
Ça va ?
Très bien, merci, ouais. Nickel.
Ouais ?
Top, top, top.
Laure ?
Super. En forme.
C'est vrai.
Ouais.
Non, elle se régale.
Il a un peu. D'ailleurs, les équipes en mettent un peu plus, mais.
On espère que ça fasse un peu comme les dernières avec les garçons, les poules un peu difficiles, et puis là, sur à partir des huitièmes, voilà, ça s'envole. Il faut mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage.
On en parlera du mondial féminin, puisqu'on connaît l'adversaire des Français, ce sera le Brésil. Pouvait-on faire pire, ou finalement, est-ce que c'est pas si grave? Laure, tu nous le diras dans un instant. Dans cette deuxième heure, l'Euro Espoir, également avec le deuxième match des Bleus, et sera sans Marin, avec Loïc Braillet, notre envoyé spécial, qui nous dira tout de ce France-Croatie ce soir. Mais on débute par la Coupe d'Afrique des Nations.
RMC.
Quelle encyclopédie, ce François Pinet. T'as même plus trop besoin de regarder ton téléphone ou Wikipédia. Tu demandes à François Pinet.
Willy contre-attaque.
Merci Willy.
Ouais.
Merci
de faire ma pub. Wikipiné.
Ou alors en fait, tu sais peut-être pas tout, mais en fait, tu anticipes peut-être bien.
Là je sais rien, là j'ai pas compris.
Non, mais
j'ai pas la réponse. J'ai pas réponse à tout là.
Non, mais là, non, mais quand on lui passe quand on pose des questions, il répond toujours, il a toujours la réponse. Et on se dit finalement, il apprend peut-être les réponses avant parce qu'il anticipe nos questions.
Ah, peut-être, oui.
Ah oui. D'accord. Ah oui, mais parce que vous êtes, c'est facile, hein.
On est prévisible.
Ouais, vous êtes très prévisible.
Ah, tiens, on a tapé que dans un ballon avant.
Rio, tu dirais que sur le terrain, il anticipe bien.
Ah, il anticipe pas mal, ouais. Il avait anticipé le penalty, mais il était loin de la surface, il tombait avant.
Ouais, il était à 6 mètres, à peu près.
À 30 mètres et sur le côté gauche, c'est ça.
On en avait parlé dans l'émission de ça?
Oui, déjà.
C'est sûr que les gens avaient bien compris. Qu'il y avait eu la chute. Voilà.
Non, mais il y a eu la tentative de débordement. Il faut quand même saluer le courage.
T'as voulu défier Rio, ouais.
Moi, j'ai eu le courage de le faire.
Ah, c'est terrible. Bon, ce soir, 22h, début de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Donc, évidemment, RMC vous a préparé un dispositif exceptionnel. Tous les matchs en direct et les débriefs dans nos émissions. Avec en plus notre envoyé spécial qu'on va retrouver dans un instant. Égypte-Zimbabwe. Donc, pour débuter ce soir, cette compétition peut-elle échapper à l'Égypte? Le pays organisateur, appelez-nous au 32-16 pour en débattre. On retrouve donc Timothée Mémon, notre envoyé spécial au Caire, dans un instant. On va pouvoir mesurer un peu l'engouement avec lui. Mais d'abord, Willy, normalement, Cannes en Égypte, l'Égypte la gagne quasiment à chaque fois qu'elle l'organise.
3 fois sur 4.
Voilà. Donc, difficile d'imaginer une autre issue encore cette année, selon toi ?
On peut imaginer une autre issue, mais l'Égypte sera pas loin d'y arriver aussi. Après, il y a... Moi, surtout depuis la Coupe du Monde, moi, je trouve quand même qu'il y a le Sénégal qui est une belle équipe, qui a toujours eu de belles générations.
Oui.
Il y a toujours eu de belles générations, mais je pense qu'avec Alioune Cissé, il a amené peut-être cette petite discipline qui manquait un peu avant. Et en plus, il y a Sadio Mané, le petit Sarr, Niang,
Gay au milieu,
Koulibaly
derrière. Koulibaly, pour moi, un des meilleurs centraux au monde.
Il sort de la Coupe du Monde.
Pardon?
Il sort de la Coupe du Monde.
Oui.
Pour disputer. Donc,
oui.
Voilà.
Et je trouve que c'est très cohérent ce qu'il fait. En tant que sélectionneur, ce qu'il fait, c'est très cohérent. Et moi, je mettrais le Sénégal au moins au même niveau que l'Égypte.
Sénégal, ils ont jamais gagné la CAN. Hein.
Et alors?
C'est assez exceptionnel. Non, mais c'est juste pour le rappeler.
Bah oui, non, mais je sais, oui. Non, mais
avec les joueurs fantastiques, c'est vrai que c'est assez surprenant.
Oui, mais là, je crois qu'il y a. Je veux pas dire c'est le moment ou jamais, mais là, il y a belle génération, il y a l'état d'esprit, il y a de la discipline, il y a un bon sélectionneur.
Tu les mets même plus favoris.
Je suis pas loin de les mettre un peu au-dessus de l'Égypte.
Après, ils ont un groupe aussi pas facile où il y a l'Algérie. Dans le deuxième match, ça sera un match important. Je pense que l'effectif aussi du côté de l'Algérie, il est intéressant. Et notamment, ils ont un pouvoir offensif, avec Delors, Mahrez,
Ziyech,
c'est le Maroc.
Pardon.
Wikipédia, c'est trop.
Ouais, ça arrive.
Toujours pareil, des contrats pour le mec.
Oui,
même Youssef Attal qui a été un peu la révélation de la Ligue 1.
L'Algérie, belle génération. Je trouve qu'ils vont manquer un peu d'expérience peut-être de cette compétition parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs.
Oui, c'est vrai.
Moi, je pense, c'est vrai que pour moi, l'Égypte, je les mets au-dessus. vraiment en large favori. Je sais pas comment ça va échapper avec.
Mais ils ont avec plus leur gardien qui a 50 ans.
Ouais, déjà. Ouais. Non, mais il y a Mo Salah, je pense qu'il avait raté justement cette Coupe du Monde l'année dernière. Donc là, à mon avis, il va vouloir se rattraper. Oui, voilà, à cause de la blessure. Mais après, il y a une équipe qu'on parle pas beaucoup, c'est le Nigeria. Et je pense qu'ils peuvent créer la surprise.
Moi, je les vois pas Rio.
Ouais, moi, je pense qu'ils peuvent créer la surprise.
Pourquoi Rio?
Parce que tout le temps, ils sont pas attendus justement. Et ils ont toujours un effectif. Eux, ils sont cohérents. Ils sont costauds derrière à chaque fois. Ils ont des joueurs offensifs, c'est physique. Et souvent, ils arrivent à créer des.
Après, le Nigeria, c'est pas les recordman du nombre de demi-finales. Ou enfin d'être dans le dernier carré.
On ne regarde plus.
Mais je crois que enfin c'est oui sur la durée le Nigeria c'est peut-être la meilleure ou une des deux trois meilleures nations.
Visiblement ils
africaines.
Ont mal préparé leur compétition parce que Garnot Rohr là, vient de nous dire qu'il y avait entre plusieurs joueurs malades, entre 4 et 5 joueurs malades, donc ils ont manqué une semaine de préparation physique. Il a précisé que c'était pas la meilleure préparation évidemment et ça sera pas la meilleure équipe pour les premiers matchs.
Très bien.
Nigeria.
On va au Caire donc retrouver Timothée Mémon, notre envoyé spécial en Égypte. Bonsoir Timothée. Alors peut-être un argument en faveur de l'Égypte, c'est la ferveur autour de la sélection. T'as pu la constater, la mesurer, toi qui es au stade?
Oui, absolument. Jusque-là, c'est un peu difficile de la ressentir, cette ferveur dans cette ville immense qui est le Caire. Et là, je suis à l'intérieur du stade. C'est absolument énorme. On est plus de 3 heures avant le début de la rencontre. Le stade est littéralement plein à craquer. Et d'ici quelques heures, eh bien, la compétition va se lancer. Et tout le monde voit cette formation comme étant clairement un grand favori, notamment ici en Égypte, parce qu'ils ont organisé jusque-là 4 éditions de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils en ont remporté 3 fois chez eux. La quatrième fois, ils avaient fait une demi-finale. Bref, c'est un ultra favori qui va débuter cette compétition tout à l'heure face au Zimbabwe.
Mais là, insistons là-dessus quand même, c'est incroyable, toi qui as la chance d'être au stade. Donc, c'est 70 000 personnes, le stade international du Caire.
C'est
3 heures avant le coup d'envoi.
Ouais, 74 000 personnes. Il y avait du monde aux abords du stade. 8 heures avant le début de la rencontre, des files interminables pour rentrer dans le stade. Alors, l'extérieur, c'était plutôt bon enfant. Il y a énormément de policiers, énormément de militaires. Voilà aussi pourquoi on a ressenti un petit peu une certaine forme de calme à l'extérieur du stade. Mais là, à l'intérieur, on sent que la ferveur est en train de monter et que ça va être absolument dingue pour cette rencontre avec énormément de vuvuzelas. Vous les entendez peut-être derrière moi.
Et puis,
l'ambiance qui monte petit à petit. Tiens, une petite information à vous glisser par rapport au Congo qui jouera demain. Je sais que vous aimez bien ces petites histoires autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Congo, comme toutes les sélections, devait donner des documents médicaux plusieurs semaines avant le début de la compétition. Ils ont fait les examens médicaux lors de leur stage à Marbella, mais voilà, ils ont oublié de les envoyer. Résultat, ils se sont aperçus de ça aujourd'hui. Les joueurs ont dû passer la journée à refaire les examens médicaux pour que leur participation soit validée demain. Ils ont été privés d'entraînement de veille de match. Il y a mieux pour débuter une compétition pour le Congo qui affrontera demain l'Ouganda.
Très bien, bah merci pour cette histoire. Timothée Mémon donc en direct du stade international du Caire avec les vuvuzelas. Donc et oui, dans ici c'est Willy, on vous emmène comme ça dans l'antre du match d'ouverture ce soir.
Ouais, et puis en reparlant de l'Égypte, c'est admettons que l'Égypte gagne cette CAN.
Oui.
Qu'est-ce qui va empêcher Mo Salah d'être Ballon d'Or?
Alors c'était ma question. Est-ce que si t'as selon vous, soit l'Égypte gagne,
j'ai fait une pinée, tu vois, j'ai anticipé.
Ah ouais, c'est beau. Soit l'Égypte gagne, Willy, soit le Sénégal dont tu as parlé. Est-ce qu'à votre avis, Mané ou Salah gagne le Ballon d'Or?
Pour moi, faut être honnête, je dirais non.
Non.
Je dirais non parce que.
Ligue des Champions Cannes.
Non, parce que. Non,
mais
parce qu'on l'a vu l'année dernière dans le classement du Ballon d'Or. Ce sont deux joueurs africains et voilà, il y a Firmino qui a fini devant eux. C'était incroyable.
Mais alors quel critère tu vas prendre, si enfin comment ça se fait?
Mais je suis persuadé qu'ils l'auront pas.
Parce que tu penses que les voix africaines vont se diluer un peu trop sur l'un ou sur l'autre, et du coup les deux n'auront pas.
Non, mais je sais pas si ça a la même vision. Si ça, par exemple, si tu gagnes une Copa América ou une CAN, pour moi c'est différent.
Il y a un changement quand même cette année, c'est que la CAN est pour la première fois en été.
Vrai, ouais.
Et ça peut changer quand même dans les.
Ça a changé énormément la perception.
Il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont regarder cette compétition. Les meilleurs joueurs sont là aussi.
Et puis surtout,
d'habitude c'est en janvier.
Non, François, t'imagines avant quand tu gagnais la CAN, c'était quoi? T'étais vers mi-février.
Voilà,
c'était 10 mois avant le vote.
Moi, je suis sûr que si un des deux gagne, on est gagné la Ligue des Champions, il gagne le Ballon d'Or.
Bah, si on regarde en fonction des résultats, oui. Pour moi, la saison, si on regarde vraiment la saison, moi, je mettrais même Mané au-dessus. Je trouve qu'il a fait une saison plus complète. Et si le Sénégal était amené à faire un résultat dans cette CAN, je pense que lui, il le mériterait un petit peu plus.
Ouais, mais de toute façon, ça sera ni Messi ni Ronaldo l'année prochaine. Il faut être honnête.
La seule chance, c'était si Messi gagnait la Copa América, mais ça.
Non, mais là, attends, mais même, je veux dire, Salah. Mané, ça fait quand même 2 ans maintenant que c'est des, je veux pas dire des surhommes, mais c'est extraordinaire ce qu'ils font, tant dans l'intensité, la performance, le nombre de buts, deux finales de Champions League, dont enfin une gagnée, 97 points ou un truc comme ça en championnat, ça va. À un moment donné, si les deux ce soir, il y en a, enfin ce soir, pardon, si à la fin de la compétition c'est un des deux qui gagne, il faut que ça soit un des deux qui gagne ce Ballon d'Or.
J'espère.
Il le faut. Non, mais ça serait une logique sportive. Il faut que le Ballon d'Or, il arrête maintenant un petit peu sa logique marketing et compagnie.
C'est la tendance, là, depuis que le vote est revenu aux journalistes, stop, là, c'est redevenu sérieux. Ça va beaucoup mieux.
Ouais,
Modric, par exemple.
Ouais, c'est super, cohérent. C'est super cohérent, Modric. Bien sûr, c'est super cohérent.
Il fait finale de Coupe du Monde.
Il est pas champion du monde. C'est super cohérent.
Il y a eu bien pire avant, comme
choix. Non, mais c'est super cohérent.
On se rapproche un peu de la cohérence, quand même.
Voilà. Mais bon, écoute, si on s'en rapproche, si un des deux gagne la CAN, j'espère que ça sera un des deux.
Très bien. Alors, revenons à notre débat. La CAN peut-elle échapper à l'Égypte? Vous nous appelez au 32-16, comme l'a fait Hicham. Bonsoir, Hicham. Bienvenue sur RMC.
Bonsoir les gars, bonsoir Woody, bonsoir Mahouba, bonsoir toute l'équipe.
T'es supporter de qui, toi? Mesdames. T'es supporter de qui?
Ah, du Maroc.
J'en ai dire qu'on n'en a pas parlé justement.
Avec Diech.
Marocos. Oui,
comment tu les vois comment les Marocains, toi?
Je les vois comment? Hyper solides. On a deux points forts, c'est notre défense et Hervé Renard. Il a l'expérience, il a gagné avec la Côte d'Ivoire, il a gagné avec la Zambie. On a un vrai état d'esprit, on a un vrai fond de jeu, on l'a vu à la CAN, malgré on va pas revenir dessus, mais les couacs avec la VAR, notamment face au Portugal et face à l'Espagne. La Coupe du Monde, on va pas revenir sur le premier match face à l'Iran, on a essayé d'attaquer tout le match et on se prend un but contre son camp à la dernière minute, donc ça nous a plombé notre Coupe du Monde. Mais vraiment, je pense que Hervé Renard a réussi à bien mixer entre les joueurs qui jouent dans le championnat national et les joueurs qui jouent en Europe. Après, franchement, moi, je mets une pièce quand même sur le Maroc. Je mets aussi une pièce sur le Sénégal. Et l'Égypte, je vous trouve un peu trop optimiste, parce que je vous rappelle qu'ils ont perdu 2-1 en Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite. Ils ont perdu 3-1 face à la Russie. Et ils ont perdu 1-0 face à
mais là, c'est chez eux. C'est chez eux, Hicham.
Oui,
on en a parlé sur les 4 qu'ils ont réalisés.
J'ai regardé
les matchs
face à l'Arabie Saoudite et face à la Russie. Je suis désolé. Salah, peut-être qu'il était blessé depuis la finale de la Champions League sur la faute de Ramos. Mais au milieu de terrain, c'est pas flamboyant. Derrière, c'est pas solide. C'est pas solide du tout. Après, il y a la ferveur du public, je veux bien l'entendre. Maintenant, tu tombes face à une vraie équipe du Sénégal ou face à une équipe du Maroc qui est bien compacte, qui ferme bien les angles, qui ferme bien les trous derrière, ça peut être très compliqué pour l'Égypte. Donc, l'optimisme peut-être grâce à la ferveur, mais moi, je mets quand même une pièce sur le Sénégal et le Maroc. Hein.
Ouais, écoute.
Ça... Ah, mais non, mais c'est logique. Il l'a dit, Hicham, le Maroc avait fait une belle Coupe du Monde, mal récompensé de ses efforts. Même très mal récompensé de ses efforts. Et le Sénégal, on en a parlé. Voilà, mais t'as vu Rio, il y a que toi, le Nigeria.
Non, mais j'y crois.
On ne suit pas trop là-dessus.
Le Maroc qui débutera dimanche, 16h30, face à la Namibie. Donc voilà, Hicham.
La Côte d'Ivoire aussi, c'est un gros relevé.
Oui, c'est
avec
vrai,
la Côte d'Ivoire
raison.
De Pépé.
Hicham, merci d'être venu sur RMC. Bonne CAN.
Ouais, c'était un plaisir et on espère que le Maroc va aller le plus loin possible.
Allez, bonne CAN.
On en parle à la fin de la CAN. Moi, je
allez, avec plaisir. Tu nous rappelles après.
Mais on s'appelle même pendant la CAN, hein, si tu veux, Hicham, t'es le bienvenu.
Avec grand plaisir.
À bientôt, salut.
À bientôt, ciao les gars.
La CAN, ça commence ce soir, 22h donc, avec ce match entre l'Egypte et le Zimbabwe. On enchaîne, 19h15. Laure, tu es prête?
Ouais.
Minute le pailleur. Allez.
Non, je sais plus, j'ai perdu ce que je voulais dire en fait.
Alors, ce que tu voulais nous dire là, ça concerne Paul Pogba, donc.
Adrien Rabiot, peut-être, non?
C'est un peu le même profil.
Non, mais parce qu'on en parle,
tu vois, c'est deux milieux de terrain, deux numéros 8, bon technicien.
Non, Adrien Rabiot et la Juve, une association qui te plaît?
Ouais, qui me plaît, parce que quand on sort d'une saison aussi compliquée qu'Adrien Rabiot, je pense qu'il faut s'inscrire dans un projet sportif ambitieux. La Juventus l'incarne. Ça va être difficile pour lui de rebondir, parce qu'il va falloir retrouver son niveau. C'est peut-être pas le choix le plus facile, mais la Serie A va lui apporter aussi cette rigueur et va devoir travailler, parce qu'il y a une forte concurrence au milieu de terrain. On regarde des joueurs comme Emre Can, Bentancur, Matuidi, Pjanic, qui est pas encore annoncé partant mais qui est pas parti, et puis surtout la recrue Aaron Ramsey. Donc beaucoup de concurrence, et je pense qu'il a besoin de ça pour retrouver son niveau, c'est de se confronter à cette concurrence, de travailler et de retrouver un statut pour, enfin en tout cas de travailler pour avoir un statut de titulaire.
Qu'est-ce que t'en penses, Willy? À la Juve, justement, ça peut lui faire passer un cap.
La Juve a, je dis pas toujours, mais souvent fait progresser les joueurs qui y sont passés.
Oui.
Parce que la Juve, c'est symbole de discipline. C'est un grand club avec une forte institution. Donc l'institution est plus forte que le joueur. Ça va être une nouveauté aussi, ça, pour Adrien Rabiot. Moi, je le vois aussi pour lui comme un peu une forme d'émancipation. On connaît son entourage familial, enfin sa vie et les drames qu'il a pu vivre et certaines complexités de sa vie familiale. Ça va être aussi voilà un peu d'émancipation pour lui, et je pense qu'il a tout à gagner déjà de partir à l'étranger et en plus d'aller dans un club qui est extrêmement structuré comme l'est la Juve. Il peut y avoir dans des clubs un peu latins, Real, Barça, peut-être parfois un peu des... Voilà, c'est un peu plus latin, mais la Juve, c'est le nord de l'Italie, hein. Tu te rapproches quand même de l'Allemagne, t'es pas très loin, donc tu as une rigueur qui fait que c'est ce qui lui manque à Adrien. C'est cette rigueur que chaque jour, chaque match, tu te dois d'être à 100% et pas faire comme un jour il nous a sorti parce qu'il a pas été bon parce qu'il faisait trop froid. Ça c'était avec l'équipe de France.
Oui, en Bulgarie.
Déjà ça lui a coûté un peu cher avec Deschamps, mais si tu fais ça en Italie, c'est fini. Là t'as tous les tifosi, ils te virent du club.
Ah, puis en plus ça serait intéressant, je pense, de le voir avec Sarri, ouais, parce que lui qui dit qu'il aime pas jouer devant la défense, et son profil qui est pas vraiment un vrai 6 comme il a fait avec Chelsea, avec Jorginho, il aime être ce type de joueur assez costaud, bon techniquement pour la première relance. Et Adrien Rabiot est capable de ça, donc.
Ah, donc il va accepter de jouer à un poste
après avoir
à la
aussi...
Juve alors qu'il l'avait reçu.
Je pense qu'il serait capable.
Mais après, à savoir, est-ce que Sarri va garder ce fameux 4-3-3?
Oh, oui.
Après, parce que s'il est gaucher, il veut jouer un peu plus haut, il va se heurter à la concurrence avec Matuidi. Il a un petit peu fait sa place.
Sarri disait que Matuidi n'était pas sûr de rester. Ouais,
exactement.
Et puis Sarri viendrait avec Jorginho comme il l'avait fait.
Sarri a ses idées et il regarde plus ses idées que les joueurs qu'il a, enfin que le nom des joueurs qu'il a, parce que ce joueur capable de faire jouer l'équipe, d'être disponible, il y a Pjanic aussi, hein. Pjanic est encore là, c'est quand même ça. Il peut avoir ce profil là, même si je pense qu'il est moins travailleur qu'un Jorginho.
Oui.
Mais Jorginho, il va pas l'amener de partout non plus, parce qu'à un moment donné, on va quand même dire il va combien à chaque fois sur
Après le problème de Sarri aussi, c'est qu'il a une équipe type. Et il en bouge pas souvent, il change pas beaucoup son équipe, à part pour jouer les compétitions européennes, ce qu'il a fait en Ligue Europa. Mais sinon, c'est souvent le même effectif qui joue.
Mais Rabiot, en étant libre, en ayant ce standing, parce qu'il a une belle image en Europe, Rabiot, son image, elle est meilleure en Europe qu'elle n'est en France. Il faut pas l'oublier, ça. Rabiot doit faire le choix, de toute façon, d'un club où il sera titulaire. Saison titulaire. Il doit faire ce choix. Il doit pas aller dans un club où, peut-être tu vas jouer, peut-être tu vas pas jouer. Il doit faire le choix d'aller dans un club où il va jouer.
Après, dans ces types de clubs, c'est pas tout le temps.
Au moins au début. Au début. Si après il est pas bon, c'est son problème.
Je suis pas certaine. Et ça fait quand même plus de 8 mois qu'il a pas joué. Il va falloir retrouver son niveau.
Justement, si en plus il arrive dans un club où dès le départ la concurrence est trop forte à son poste, par exemple, s'il a pas le rythme, l'autre il va le bouffer. Son concurrent à son poste, il va le bouffer pour revenir derrière.
Alors il peut pas aller dans un grand club alors.
Si. Bien sûr que si.
La concurrence est forte dans les grands clubs. Que ce soit au Real Madrid, au Barça,
Certains grands clubs, t'as pas tous les postes qui sont doublés.
Ah bon. Très bien.
C'est comme ça.
Souvent, c'est le cas
quand même, non ?
Alors, dis-moi, le Real a gagné 3 ans de suite la Ligue des Champions avec 3 milieux de terrain. Il y avait Casemiro, Kroos et Modric.
Rabiot, il arrive au Real Madrid, il est titulaire.
Je te dis pas d'arriver, mais je te dis juste,
à part ces trois, il sera titulaire au départ.
Non, mais ces trois-là, il y avait aucune concurrence au milieu de terrain dans ces trois-là.
Oui, t'avais que Kovacic qui rentrait de temps en temps, mais c'était pas.
Exactement. Donc, il faut qu'il vise un club où, dès le départ, il va avoir la possibilité de jouer. Surtout après autant d'abstinence.
Très bien. On verra. On verra s'il signe là-bas déjà, hein, parce que pour l'instant, on n'en est pas sûr. Mais c'est vrai que ça peut être une tendance. Laure, tu restes avec nous. On va parler du Brésil dans un instant, l'adversaire des Bleus à la Coupe du Monde féminine. Rio, merci beaucoup.
Merci. Rio, il a dit, moi, il voulait pas parler du foot féminin.
Non, c'est vrai.
Mais il l'a dit.
Non, t'es fou, je vais suivre là. France-Brésil à bloc, ouais.
C'est quand ?
À bloc, à bloc.
Tu veux venir chez moi pour le regarder un peu là, non ?
C'est quand déjà ?
Allez, merci Rio.
Il a pas répondu.
On y revient dans un instant à ce France-Brésil de dimanche, donc au Mondial féminin en 8e de finale. On parlera également de l'Euro Espoir avec ce soir France-Croatie. On sera sur place. À tout de suite.
RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 19h25, toujours dans Ici c'est Willy sur RMC jusqu'à 20h avec Jean-Louis Tour et François Pinet. Oui, et également Laure Lepailleur. Et reste avec nous parce qu'on va parler de nos féminines.
Exactement. Il y aura également à 19h45 le buzzer Pinet, le rendez-vous de France.
Avec un jeu que j'adore, le jeu légende, pas légende. Tu sais, on fait ça pour un joueur qui est dans l'actualité. Je vais te demander si c'est une légende ou pas une légende. Je te donne le nom tout de suite ou pas?
Non, laisse, fais-nous la surprise.
On laisse dans un quart d'heure.
Sagnol, c'est légende ou pas légende?
Ouais, quand même. C'est légende, Sagnol.
Non, ça dépend ce que tu t'appelles aussi.
C'est parce qu'il bosse avec toi.
Non, mais il est obligé.
Comment tu définis légende, déjà?
Il est obligé.
Mon contrat.
Il est obligé.
C'est une légende. C'est incroyable, Willy Sagnol.
Mais il n'est pas champion du monde. Pardon.
Tu vois, je répondrai même pas, tu vois.
Oui,
moi, je répondrai même pas.
Bon, bah, ce sera dans un instant. Il y a une question Pinet aussi, qui sera dévoilée dans quelques minutes.
Très bien. Mais...
Et puis, on sera à Saint-Marin. Pourquoi on va à Saint-Marin?
Les espoirs.
Exactement. Bah,
tu prendras jamais de cours, Jean-Louis.
Ce soir, France-Croatie espoir. On est sur place. Loïc Braillet nous présentera la rencontre. Donc, deuxième match pour les Bleuets. Après la victoire face à l'Angleterre. De toute façon, il faut gagner tous les matchs quasiment pour se qualifier en demi-finale dans cette compétition. Mais on y va donc sur la Coupe du Monde féminine.
RMC.
Au Brésil. Marta.
Carré VIP de Willy.
Et oui, Marta face donc à l'équipe de France. Alors, on a attendu hier soir, le dernier moment, la fin du suspense pour connaître l'adversaire des Bleus en huitième de finale de cette Coupe du Monde féminine. Ce sera finalement le Brésil. Ça s'est joué à un but. Je sais, Willy, que t'as suivi ça toute la soirée hier. T'étais sur ton téléphone à voir toutes les images. Si le Chili en avait mis un troisième, c'était le Cameroun, l'adversaire des Françaises. Eh bien non, ce sera bien le Brésil donc. Est-ce que c'est le pire tirage possible, Laure, d'affronter le Brésil en huitième?
Bah déjà, on ne s'attendait pas à voir cette équipe du Brésil terminer troisième de son groupe. C'est grâce aussi à la performance de l'Italie qui a plutôt fait bonne figure dans ce mondial. Je trouvais un jeu intéressant. Ça s'est joué au goal à virage. Mais
oui,
finalement.
Brésil, l'Italie, il y a une égalité à 6 points en fait.
Voilà, après je trouve que c'est une belle affiche et je vois plutôt le verre à moitié plein pour jouer cette équipe du Brésil en se disant que la France a eu du mal à jouer face à des équipes qui étaient regroupées. Les Brésiliennes ont tendance à beaucoup attaquer et laissent des espaces aussi, une défense centrale aussi qui est assez lente. Et je pense que les Françaises peuvent être bonnes dans le jeu de transition. C'est un jeu qui leur correspond davantage avec des attaquantes rapides. Elles vont pouvoir exploiter ces espaces, ce qui n'a pas été le cas face aux adversaires de groupe, que ce soit la Corée du Sud, la Norvège ou le Nigeria. Donc je vois justement les joueuses françaises plus à leur avantage dans ce match, même si sur le plan offensif, il y a quand même des attaquantes, les trois qui sont devant, Marta, Christiane et Debinha. C'est quand même un pouvoir offensif assez impressionnant, qui sont capables de fulgurance. Mais il faudra justement, en tout cas, être attentif sur l'aspect défensif pour jouer les phases de transition correctement.
Oui, mais justement, ça sera peut-être aussi à nous, les Françaises, de faire... fait bizarre de dire à nous, les Françaises.
Oui.
Hein? Non, mais c'est ce qu'il faut, il faut le dire comme ça ou pas, Jean-Louis?
Oui, je pense très bien comme ça.
Non, mais ça sera quand même à nous, parce qu'on l'a vu sur les premiers matchs, bon, l'opposition n'était pas extrêmement forte. On l'a vu quand on avait le ballon, moi, je trouvais que les joueuses, quand même, se montaient quand même assez haut sur les situations offensives, et je trouvais que il y avait toujours au moins une des deux milieux de terrain axial aussi qui sortait, que ça soit Amandine Henry ou Bousaglia, et justement je trouvais qu'à la transition défensive on avait un peu de mal, mais que comme les équipes adverses, que ça soit le Nigeria ou que ça soit la Corée, étaient faibles,
il n'y a pas eu de danger,
mais moi je me suis dit, oula, on se découvre un peu quand même au milieu de terrain axial.
Et moi, il y a aussi un paramètre où j'ai trouvé que la France avait des difficultés. Quand tu parles de cette transition défensive, on a des latérales qui sont très offensives. Et j'ai trouvé que dans le dos, dans la gestion de la profondeur, parfois, elles étaient en difficulté. Et il faudra justement être attentif parce que ça fera les affaires des Brésiliennes. Ces espaces, ils vont être exploités. Donc attention aux latérales qui ont tendance parfois... Les deux à monter, ça laisse quand même énormément d'espace.
Je trouve que ça ressemble un peu à la Coupe du Monde des garçons.
Mmh. Oui.
C'est-à-dire que la France, que ce soit en 2018, en 2019, un peu poussif, il faut le dire, on est poussif.
En 2006 aussi.
Oui, aussi. Mmh. Oui, non, mais je suis d'accord.
Dans les phases de groupe, ouais.
Et voilà, en huitième de finale, il y a un gros. Et l'année dernière, c'était. Alors, l'Argentine, c'était pas une grosse équipe, mais il y avait Messi. Donc ça, on a l'impression que ça avait donné
un élan.
Je sais pas où une nouvelle image de cette Coupe du Monde, même aux joueurs. On avait l'impression qu'ils étaient, ils avaient franchi un cap simplement parce qu'ils jouaient Messi en face. Et je pense qu'avec le Brésil, l'équipe de France, ça va faire la même chose.
Ouais, Laure, t'es d'accord?
Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait un petit peu un copier-coller de la Coupe du Monde garçon. J'attends beaucoup de cette équipe de France parce que, en termes de jeu, elle m'a quand même déçu depuis ce début de mondial. Maintenant, à voir si des changements vont être opérés.
Ah bah justement, oui. C'est là que je voulais venir. Tu disais que cette équipe de France était rapide dans la transition offensive, mais il y a quand même des filles qui, depuis le début de la compétition, ont du mal. Ou alors ralentissent un petit peu le jeu. On pense à Gaëtan Tinet.
Oui, bah justement, je pense un petit peu.
Même à Valérie Gauvin.
Je pense à ça, c'est que Corinne Diacre, elle a fait 2 entraînements à huis clos. Ah, alors je me dis, est-ce qu'elle n'a pas une idée en tête? Elle a voulu travailler autre chose? Parce qu'on a vu que Gaëtan Tinet, Valérie Gauvin, la complémentarité, elle ne se faisait pas tellement sur les matchs où elles ont évolué ensemble. Je me dis, est-ce que pourquoi pas réaxer une Eugénie Le Sommer qui est plutôt à l'aise dans l'axe et pour mettre des joueuses offensives sur les côtés, Diani, Cascarino, Asseyi, qui sont des joueuses de percussion. Est-ce qu'elle aurait peut-être tendance où, Didier Deschamps l'avait fait, hein. Il avait changé à partir, nous avait trouvé Matuidi à gauche.
Le troisième match, ouais.
Non, c'était contre le Pérou, non?
Oui, du Pérou, ouais.
Donc il avait fait changement, pourquoi pas Corinne Diacre changer maintenant, c'est peut-être pas forcément
ses habitudes. Et puis Gaëtan, c'est, alors, même si je l'apprécie beaucoup, parce qu'en plus on a travaillé ensemble à la fédération, Gaëtan, ça fait quand même des années que s'il y a un débat, c'est à l'époque déjà de Bini, la fin de l'ère Bini, elle était plus titulaire indiscutable, avec Bergerot non plus, avec Ichouafni non plus, là elle revient un peu avec Diacre. Je sais pas, c'est pas bon non plus d'avoir toujours un débat sur une joueuse de pas avoir des certitudes. Oui, elle est titulaire ou non, elle l'est pas, et je sais pas, je trouve un peu, je la trouve mal à l'aise.
Il y a eu un débat sur Giroud pendant toute la Coupe du Monde, et ça l'a pas empêché d'aller au bout et de la gagner, hein.
Ouais, mais voilà, mais enfin, avec Bini, c'était il y a 6 ans déjà.
Oui, c'est vrai.
Ça fait longtemps. Et je trouve qu'il y a toujours débat. Et c'est pas sain. C'est pas sain.
D'accord.
Pour elle, pour le groupe, je trouve que c'est pas sain.
Après, quand on entend un petit peu tout ce que peuvent dire les joueuses en conférence de presse, elles insistent énormément sur la rigueur défensive imposée par Corinne Diacre.
Oui.
Et j'ai l'impression que la préoccupation première des joueuses, c'est avant tout cette perte de balles. Et je me dis que peut-être elles sont tellement inhibées par ce principe-là, bridées, qu'elles en oublient après de s'exprimer offensivement.
Ouais. Bon, en tout cas, d'ici à dimanche, on aura sans doute des infos sur la compo grâce à tous nos suiveurs de l'équipe de France mobilisés autour de cette Coupe du Monde pour savoir.
T'as prévu le barbecue, toi, pour regarder le match ou pas dimanche?
Bah, moi, je regarderai ça à fond, bien sûr.
Avec un barbecue ou pas?
Je sais pas, je peux pas trop me permettre d'un barbecue en ce moment. Merci Laure.
Tu peux mettre du poisson sur un barbecue, hein,
ouais.
des légumes.
Il ouais,
y a pas que la barbecue, hein.
Mais là c'est déprimant. Si je fais un barbecue, je mets que du poisson.
Et après tu mets des myrtilles en dessert, c'est génial.
Tu veux quoi, que je fasse des légumes vapeur aussi à côté? Non mais
pourquoi pas.
Hein. Pas ou quoi. Allez, merci Laure.
Merci.
Bonne soirée.
Merci Laure.
On enchaîne avec les espoirs.
Aujourd'hui, l'attachement à la langue picarde.
Le Focus Ligue 1.
Voilà, Focus Ligue 1, parce qu'il y a quelques joueurs de Ligue 1 qui sont dans l'effectif de l'équipe de France Espoir, qui va donc défier la Croatie ce soir à Saint-Marin. On retrouve Loïc Braillet, notre envoyé spécial. Salut Loïc.
Salut Jean-Louis, salut Willy, salut tout le monde.
Salut bon. Loïc.
Salut. Alors Loïc, déjà, juste, on est d'accord qu'une victoire ne signifie pas qualification?
Absolument pas. Il faudra, comme tu l'as dit, quasiment tout gagner dans cette compétition pour aller au bout, puisqu'on rappelle qu'il y a 3 groupes de 4 et que seuls les premiers de chaque groupe sont qualifiés, plus le meilleur deuxième. Et donc, vu cette configuration-là, effectivement, même le dernier match est important. Donc, on peut pas trop calculer comme une Coupe du Monde. On gagne les 2 premiers, on fait tourner sur le 3e. Ça marche pas trop pour le format des espoirs. Une victoire est plus que conseillée quand même ce soir, mais on va dire qu'il y a eu un grand pas de fait déjà après le succès un peu miraculeux, certes, mais succès quand même face aux Anglais.
Oui, a priori c'est un adversaire moins redoutable que les Anglais ce soir.
Voilà, exactement. Alors leurs aînés sont finalistes bien sûr de la Coupe du Monde DA. Il y a eu un âge d'or qui est peut-être en train de se terminer. Les Croates reviennent dans une phase finale d'un Euro pour la première fois depuis 2004. Donc il y a un grand renouvellement et une nouvelle génération qui est en train d'arriver. La France a fait match nul face à cette équipe-là, l'équipe de France Espoir. Je parle bien sûr en novembre dernier. Donc méfiance quand même. On nous parle d'un bloc assez resserré, assez difficile. indisciplinés, on les connaît pas beaucoup. Il y a quelques joueurs quand même qui évoluent dans des clubs comme le Celtic, Wolfsburg ou le CSKA Moscou. Il y en a beaucoup qui évoluent en Croatie évidemment. Et juste à signaler, il y a 4 joueurs qui sont redescendus des Ham, aucun champion, aucun finaliste hein, de la Coupe du Monde. Benkovic, Brekalo, Halilovic et Vlasic, qui eux connaissent déjà le plus haut niveau, donc les A, et qui sont redescendus en espoir puisqu'ils avaient l'âge légal entre guillemets pour revenir avec le règlement des espoirs pour revenir pour 7 euros. Donc voilà, méfiance quand même. A priori, si les Français sont sérieux, ça devrait quand même passer.
Même si, il faut pas oublier quand même que sur le premier match, même s'il y a cette victoire très importante face à l'Angleterre, en plus obtenue avec un scénario incroyable, la prestation globale des Bleuets a pas été extraordinaire quand même. Hein. Faut peut-être faire oublier ça aussi ce soir.
Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment sur le début de match. On a beaucoup questionné ces dernières heures les Bleuets sur leur début de match raté, et ils sont totalement d'accord hein. C'est vraiment le chantier prioritaire, donc je pense que Sylvain Ripoll a dû insister là-dessus auprès de ses joueurs. Et puis quand même quelques changements importants attendus dans la compo qui va tomber officiellement d'ici une vingtaine de minutes, puisque a priori Oussem Aouar va débuter sur le banc et le milieu de terrain va être recomposé avec Lucas Touzard qui va garder son brassard de capitaine, Olivier Ncham qui rentre dans le 11, donc avec Jeff Reine-Adélaïde qui lui va rester. Marcus Thuram va remplacer numériquement Bamba qui s'est blessé malheureusement assez gravement face à l'Angleterre, qui est forfait pour le reste de la compétition. Et puis changement sur le côté gauche de la défense, puisque Malang Sarr va a priori remplacer Fodé Ballo-Touré, qui n'était pas du tout à son avantage face aux Anglais dans le couloir gauche. Pour le reste, on va garder la même équipe, et notamment Moussa Dembélé qui a certes raté un pénalty, qui a raté beaucoup d'occasions aussi, mais qui était quand même pas loin d'en convertir. Donc voilà, il a quand même une grande confiance de la part de Sylvain Ripoll.
Qu'est-ce que tu penses de ce milieu de terrain là, remodelé sans Aouar, Willy?
Ah bah, il fait le choix de la récupération, de la dimension athlétique, de la projection peut-être offensive. Après, je trouvais étrange le positionnement du petit Malang Sarr arrière gauche.
Ouais.
On sait que c'est pas du tout son poste.
Il a joué comme ça à Nice.
Ouais, mais à chaque fois qu'il joue arrière gauche à Nice, à chaque fois, il n'est pas à son meilleur niveau. Quand il a son meilleur niveau, c'est toujours quand il est dans l'axe. Et après, c'est un choix de sélectionneur. Mais c'est vrai que le choix d'enlever Aouar au milieu de terrain, bah, c'est un choix fort. Mm-hmm. C'est un choix fort. Parce que je pense que Aouar faisait partie un petit peu, je veux pas dire des comme c'est les espoirs, on va dire des starlettes, de cette équipe. Donc c'est un choix fort. C'est un choix fort. Mais attention, faut pas trop en enlever, parce qu'à un moment donné, pour marquer des buts, faut se faire des passes.
Ouais.
Après, Aouar est quand même très décevant sur les derniers matchs. Alors, contre l'Angleterre, il n'a pas brillé, mais sur les derniers matchs de préparation aussi. Non, mais tout à fait.
Donc,
bien sûr,
sanction,
sur cette
alors.
Fin de saison, on ne nous le présente pas comme ça. Ouais. Je pense que la dimension physique rentre également en ligne de compte, parce que mine de rien, c'est un... On a parlé du format, mais en termes de calendrier, ça s'enchaîne très très vite. C'est sur 2 semaines hein, l'Euro Espoir, donc ça va très vite. Il y a 5 matchs, si vous allez au bout, il y a 5 matchs en 2 semaines. Donc peut-être que la dimension physique rentre en ligne de compte également dans une fin de saison qui a été quand même très très longue. Ouais. Mais si Aouar avait été au niveau, on peut logiquement imaginer qu'il aurait quand même été titulaire. Donc c'est peut-être une petite manière de le piquer pour qu'il puisse revenir meilleur ensuite.
Loïc, merci. À tout à l'heure, 21h pour le match en intégralité dans le RMC Football Show. Le deuxième match des Bleuets donc à l'Euro Espoir. Et sur cette rencontre, on parie tout de suite.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Christophe Payet nous a rejoint pour parier. Salut Christophe.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir François.
Salut.
Salut Willy.
Alors les codes de ce France-Croatie.
Juste avant, je voudrais quand même signaler que Willy a de la mémoire. Ça c'est bien, il faut le savoir. Parce que il a dit tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la CAN et que le Nigeria était souvent en demi-finale. On en a parlé ce matin dans le podcast des Paris RMC. 17 participations à la CAN, 14 demi-finales pour le Nigeria.
Il a de la mémoire, mais il se souvenait pas des chiffres. Hein.
Oui. Non, il se souvenait quand même. C'est plus important.
Oui, mais c'est le plus important.
Il y a d'une partie.
Moi, quand on me dit quelque chose, je m'en rappelle. Voilà.
C'est vrai.
Alors, on parle aujourd'hui sur France-Croatie en espoir, championnat d'Europe. C'est un 42 la victoire de la France, c'est 4,70 le nul et c'est 7 la victoire de la Croatie qui a perdu, vous l'avez dit, 4-1 face à la Roumanie. La France s'est imposée miraculeusement. La France qui gagne dans ces conditions-là, c'est plutôt positif parce que c'est une victoire et puis parce que la France a de la chance et que ça peut être un déclic, ou c'est plutôt négatif, Willy, parce que cette équipe de France n'a pas montré grand-chose en fait face à l'Angleterre.
Non, mais le problème dans les poules du championnat d'Europe, si tu perds un match, c'est presque déjà, je ne veux pas dire t'es éliminé, mais c'est, après ça devient très 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 compliqué. Le fait d'avoir gagné en jouant mal, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ils sont arrivés dans ce championnat d'Europe peut-être avec une étiquette aussi de presque de favoris, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de chez nous. On sait c'est toutes les générations quand même qui jouent dans des bons clubs. Je pense que ça les a remis à leur place. Et je pense que le vrai championnat d'Europe va commencer aujourd'hui avec les Français. Mais attention, on en a parlé dans les podcasts. Attention, l'équipe de France sur les 10 derniers matchs, c'est simplement 2 victoires. Sur les 8 derniers matchs, c'est que 2 victoires, 2 défaites et 4 nuls. Donc attention.
Et cette équipe de France, donc 1,42, c'est pas terrible. Moi, je vous propose la France par un but d'écart, précisément un but d'écart, c'est 3,45. Mais aussi, je pense qu'il faut se couvrir avec le 1N et les deux équipes marques, c'est 1,92. Il y a eu 2-2 le 15 novembre dernier entre les deux sélections. Et pour avoir ce 1N et les deux équipes marques sur le nouveau partenaire, sur le site du nouveau partenaire, vous allez sur MyMatch, vous créez votre pari. Et il y a une grande possibilité de pari que vous pouvez créer vous-même, c'est assez intéressant.
Tu sais que 2-2, c'était le score de France-Croatie 2004.
Et justement, j'allais en parler.
France-Angleterre 2-1.
Et c'était miraculeux dans les dernières minutes, tout à fait.
On peut peut-être pousser ça.
Sinon, tiens, d'ailleurs, le 2-2, il est coté à 15, si ça t'intéresse.
Voilà, très bien. Non, parce que j'ai joué France.
France plus Dembélé.
Non, il connaît.
Il marque pas beaucoup, il connaît.
Il a marqué le premier match. Oui, mais très bon. Ça a été le meilleur.
Écoute, c'est coté à 4. Donc il y avait
Dembélé, ça doit pas être très bon.
Il y avait Nordin, maintenant il y a Iconé.
Voilà.
Insupportable.
J'aime bien ce Nordin. J'aime bien ce Nordin.
Non mais là, Nordin, ça n'a rien à voir. Et si vous avez regardé le match, Iconé c'était meilleur.
Justement, il marque pas tous les matchs, Iconé. Il a mis combien de buts avec Lille?
Non, 4. Pas beaucoup effectivement, mais là il est dans une position différente sur le côté dans un 4-3-3.
La cote est à 4, c'est très intéressant.
François?
Non,
mais François, c'est que le mondial féminin.
Voilà.
L'Euro espoir, c'est pas trop son truc en ce moment. Voilà.
C'est vrai.
Et Willy et Ali étaient d'accord
sur le mondial féminin. Je suis nul aussi en pronostic.
Willy et Ali étaient d'accord sur la victoire de la France avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à 2,75. C'est ça, Willy.
C'est une belle cote, ça.
Ah oui, c'est pas mal. On prend. Très bien. Merci Christophe.
Bonne soirée,
Christophe. Pour retrouver tous les conseils de la Dream Team.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Qui est donc cette légende dont veut nous parler François? C'est dans le buzzer dans une seconde. A tout de suite.
RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 19h45, vous êtes dans les 10 dernières minutes d'ici C'est Willy sur RMC. Et Jean-Louis, c'est notre buzzer.
Oui.
Et je vais vous rappeler au 32-16.
Exactement, et après 20h, le RMC Football Show sera là, spécial Euro Espoir, avec en intégralité le match des Bleus, plus le début de la CAN, avec ce soir 22h, Égypte, Zimbabwe. On était sur place dans Ici C'est Willy avec Timothée Mémon, notre envoyé spécial. C'était la folie, 3 heures avant le coup d'envoi, déjà 70 000 personnes dans le stade. Tout de suite, c'est le buzzer piné, François.
Alors, avant de découvrir si il y a une légende ou pas qui se cache dans le buzzer. Oui, je vais vous faire patienter. C'est pas du teasing.
Ah, j'en peux plus là.
Je sais. Je vais te parler d'abord de, tu sais, de cette règle, cette nouvelle règle que l'on voit lors du mondial féminin, qui oblige les gardiennes à avoir seulement un pied sur la ligne et puis surtout que la vidéo, le VAR vérifie à chaque fois si elles sont bien positionnées.
Oui.
Eh bien, d'après le Times, la première ligue qui va utiliser la VAR pour la première fois la saison prochaine a décidé de ne pas employer ce système-là, de vérifier le positionnement du gardien sur les pénaltys lors du mondial féminin. Est-ce que tu trouves qu'en Ligue 1, par exemple, il faudrait faire la même chose? Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de cette...
Je trouve que les Anglais sont des gens très sensés et très intelligents.
Donc, tu trouves
ça va, faut arrêter,
ridicule?
Oui, c'est ridicule. Faut arrêter avec ces trucs de 1 cm, 1 mm. Est-ce que c'est le crampon arrière droit qui touchait la ligne?
Ça
va, stop. Ouais, mais ça va. Stop. François, mais.
Non, mais bien sûr,
il faut stop avec ces abus contre. Moi, c'est toujours pareil. J'ai une petite dent, voilà, sur l'arbitrage au niveau de l'UEFA et de la FIFA, où on n'est pas sur le bon chemin avec. On a des outils qui sont extraordinaires comme la VAR, qui pourrait être utilisé de manière encore beaucoup beaucoup mieux, de manière encore plus performante, et on se rend compte d'une chose, c'est on dit ouais mais la VAR ça a évité tellement de ah oui peut-être, mais ça en a créé combien aussi de débats. Donc voilà, je attention, dénaturons pas trop le foot et laissons un peu aussi de voilà. De...
Donc on laisse les gardiens faire un peu ce qu'ils veulent.
Bah oui. Ouais.
D'accord.
Tant que le gardien, il sort pas, tant que le gardien il sort pas de ses 5-50 pour aller devant le mec, ça va. S'il fait juste, si avant tu fallait pas bouger. Avant, tu pouvais bouger que quand le mec allait.
Avant, c'était les deux pieds sur la ligne.
Voilà.
Mais c'était jamais vérifié parce qu'il n'y avait pas.
Tant que le gardien. En fait, faudrait dire voilà, tant que le gardien passe pas 30-40 centimètres devant sa ligne, après un mètre, enfin j'en sais rien, mais bon. Voilà.
En tout cas, la Ligue 1 devra sans doute se positionner parce que la Première Ligue visiblement va se positionner là-dessus. Et puis justement, toujours sur cette question, tu sais, ils donnent un carton jaune à chaque fois aux gardiennes. Donc ils se sont rendus compte là à la FIFA, là ils ont été intelligents, ils se sont dit ah mais si il y a deux pénalties dans le match et qu'elle fait deux fois l'erreur, on lui met deux cartons jaunes. Donc ils se sont dit bon, à partir des huitièmes de finale, on arrête de donner des cartons jaunes aux gardiennes.
Ouais. Bah ouais. Voilà, ça montre encore une chose que donner un carton jaune pour un truc comme ça, l'avoir pensé au départ, il faut jamais avoir joué au foot pour avoir pensé ça.
Voilà. Leonardo qui veut faire un coup à la Verratti. Au Paris Saint-Germain, le directeur sportif du PSG qui regarde, on le sait, vers l'Italie, hein, c'est à ses réseaux. Il s'intéresserait à Sandro Tonali. Comme Verratti à l'époque, il évolue en deuxième division italienne actuellement à Brescia. Comme Verratti à l'époque, il a 19 ans. Et comme Verratti, il est milieu de terrain. Alors, il joue pas tout à fait au même poste puisqu'il est plutôt considéré comme un nouveau Pirlo. Plutôt comme un nouveau Verratti, mais en Italie, ils cherchent le nouveau Pirlo depuis des années. Il est actuellement d'ailleurs
ils peuvent chercher longtemps encore, hein, parce qu'avant de trouver le nouveau Pirlo, quand même, il va falloir tourner.
Alors actuellement, il est avec l'équipe italienne Espoir à l'Euro. Alors, sauf qu'il coûtera sans doute pas les 12 millions d'euros qu'avait coûté Verratti, mais beaucoup plus. Le monde a changé, le monde du football a changé. On parle de 30 millions d'euros pour ce joueur-là qui est convoité un petit peu partout, et notamment par d'autres clubs italiens. Voilà, donc ça. Est-ce que tu penses que c'est faisable de la part de Leonardo de retrouver la pépite
Quand tu veux acheter un joueur, et si tu veux que tout le monde dise « Ah ouais, mais il faut vraiment qu'il vienne et tout », il faut toujours laisser filtrer un petit peu de partout, mais tous les autres clubs le veulent.
Oui.
Ça marche bien, ça. Ça, c'est génial, ça. Quand tous les directeurs sportifs aiment bien faire ça. C'est quand tu vas acheter un joueur et que tu dis t'es pas trop sûr, ou alors le prix ça paraît un peu cher pour faire passer la douloureuse à tout le monde, tu dis que tout le monde le veut.
Bon. Et puis toujours sur le PSG, selon la Gazzetta dello Sport du jour, Naples pourrait accepter de laisser partir son milieu de terrain Alan, le milieu brésilien, pour 60 millions d'euros, hein. Donc jusque-là les Napolitains ne voulaient pas négocier en dessous de 80 millions. Peut-être que le PSG va donc formuler cette offre. Et puis toujours concernant les milieux de terrain du PSG, hein, cette fameuse quête, le Corriere dello Sport nous apprend que le PSG aurait fait une offre de 45 millions d'euros pour Milinkovic Savic, le joueur de la Lazio,
alors,
le Serbe de 24 ans,
alors,
et depuis 4
alors,
ans à la Lazio.
Verratti, Paredes, Draxler, le petit Tonelli, Milinkovic Savic, Alan. À un moment donné, on va plus jouer qu'avec Mbappé devant.
Pour l'instant, il n'y a que Verratti, donc il faut bien en prendre quand même.
Oui, non, mais je suis d'accord.
Très bien.
Je suis toujours d'accord avec toi, Jean-Louis.
On fait le jeu la légende ou pas légende ?
Oui.
On va savoir si tu penses que ce joueur qui vient d'annoncer la fin de sa carrière,
oui,
Fernando Torres, qui a annoncé donc sur Twitter la fin de sa carrière à 35 ans, il jouait depuis l'été dernier au Japon. Presque 300 buts en 18 ans de carrière, palmarès énorme avec l'Espagne, 110 sélections, champion du monde en 2010, deux fois champion d'Europe en 2008 et 2012, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, deux Ligue Europa avec Chelsea et l'Atlético de Madrid. Légende ou pas légende, El Niño ?
Oui, c'est une légende par rapport à son palmarès. Parce que le palmarès, c'est des choses qui restent. Après qu'on trouve un joueur bon, ouais, moins bon, c'est toujours l'interprétation. Mais le palmarès, c'est le palmarès. Après... C'est un joueur qu'on, à l'âge de 27-28 ans, on aurait imaginé encore beaucoup plus haut, et puis qui s'est perdu malheureusement les dernières années. C'était plus le grand Torres du début.
Il a eu des blessures. Quand il a quitté Liverpool pour Chelsea, c'est là, à ce moment-là, qu'il a commencé à décliner un petit peu.
Malheureusement pour lui. C'est une légende.
Pour moi, c'est pas légende parce que les titres qu'il gagne.
J'ai pas tout revu,
mais c'est pas le joueur clé à chaque fois.
Il marque un but en finale.
Dans les deux finales.
Il marque
face à l'Allemagne. C'est lui qui donne le titre. Et il remarque face à l'Italie.
Mais à l'Euro encore.
Oui.
À la Coupe du Monde, je crois. À la Coupe du Monde, il n'est pas titulaire.
Non, il jouait sans attaquant à la Coupe du Monde.
Soit c'était Fabregas, soit c'était Villa.
Oui.
Et la Ligue des Champions avec Chelsea, c'est pareil, il n'est pas titulaire. C'est Drogba qui marque. Enfin, c'est. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un petit bémol, même si c'est un joueur que j'ai adoré. Franchement, le début de carrière de Torres, c'est la folie. Ouais. Et malheureusement, il manque un peu de longévité aussi. Parce que justement, je pense qu'il a trop tiré sur la corde tôt dans sa carrière et après, il a eu un peu de mal. Mais bon, joueur formidable.
Il est seulement le cinquième joueur quand même à avoir remporté quatre titres majeurs. Justement, le Mondial, Euro, Ligue des Champions et Ligue Europa ou UEFA.
Donc,
tu as les quatre autres ?
Donc, légende.
Les quatre autres qui ont gagné tout
alors,
ça.
Alors, c'est simple, parce qu'ils ont gagné quoi ?
La C3, en fait.
Voilà.
Ça va être ça, la difficulté.
Les quatre titres majeurs, c'est le championnat du monde, enfin, la Coupe du monde, pardon, l'Euro, la Ligue des Champions et la Ligue Europa ou la C3.
On doit avoir des Français, quand même.
Parce qu'il y a quand même. Non, il y a
dehors
aucun
des Espagnols.
Aucun Français.
Non, dehors des Espagnols.
Les Espagnols qui, effectivement.
Des avec les Séville et compagnie.
Ont joué avec Fernando Torres en sélection. Et des Allemands. Les Allemands, c'est beaucoup plus vieux.
Ouais.
Alors, les Allemands, ils ont joué dans les mêmes équipes.
Il n'y a pas Kaltz.
Non. C'est plus vieux. Ils ont joué à la fois dans la même équipe, à la Juve, avec qui ils remportent la Ligue Europa, la Coupe de l'UEFA à l'époque, et avec Dortmund, ils remportent la Ligue des Champions, les Allemands.
Ils ont gagné
Reuter, la Coupe du Monde en 1990 avec l'Allemagne. Non, Jürgen Kohler et Andreas Müller. Voilà. Ils ont tout gagné.
Ouais,
ils ont gagné
à heure.
Et du côté des plus vieux, tu disais.
Oui, bah c'est plus vieux que les Espagnols,
oui,
dont je parle, qui ont gagné avec Torres également, donc Coupe du Monde, Euro.
Donc, légende.
Et ils ont gagné. Peut-être toujours pas donné les noms.
Ils gagnent une C3. Donc,
il y en a un qui a gagné la Ligue Europa cette année. Un Espagnol.
Alors, il a la Ligue Europa cette année.
Ouais. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça. Déjà. Chelsea.
Ah oui.
Pedro. Très bien. Et l'autre. L'autre a gagné la Ligue Europa avec Manchester United.
Ah non, Manchester United.
En 2017, Mata, tout à fait. Mata, Pedro, Kohler, Müller et donc maintenant Torres qui ont remporté les quatre titres majeurs.
Très bien. Alors, demi-légende.
La question Pinet ?
Oui, bien sûr.
Parce qu'on a parlé de Lyon dans Et si c'est Willy au tout début. Laurent Koscielny serait-il une bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais ? Il se murmure que Lyon sera intéressé par le joueur d'Arsenal qui est en fin de contrat dans un an. Pour l'instant, sur le compte Twitter de RMC Sport, c'est 71% de oui. Donc, beaucoup de gens aimeraient voir revenir Koscielny. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça sera toujours mieux que Marcelo.
C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient surtout ne plus voir Marcelo.
Et d'autres qui sont un peu moins fans et qui disent bah, il fait quand même beaucoup d'erreurs. Il y a quand même cette image de Koscielny. Il provoque des pénalties, il prend des cartons rouges. Je ne sais pas si c'est justifié.
Qu'un défenseur central de temps en temps fasse des pénalties, c'est quand même normal, c'est son il est dans la zone le pauvre. Ah bon. Mais c'est quand même un joueur qui je pense qu'il y a des joueurs
défenseurs centraux à Lyon pris de rouge par exemple.
Puisqu'il y a des jeunes joueurs aussi à Lyon qui doivent progresser notamment dans les attitudes, dans le combat, bah peut-être que des joueurs comme Koscielny pourraient amener cette dimension de combattant.
Allez-y, vous pouvez voter à la question Pinet sur le compte Twitter.
Non, vous pouvez plus.
Ah bon?
Ah non, résultat finaux, 71. Ah bon, d'accord, c'est terminé.
Très bien.
Non, c'est jusqu'à la fin de l'émission, visiblement.
Très bien. c'est pas grave.
Mais c'est pas grave, vous pouvez les voir quand même les commentaires et laisser vos commentaires. On peut créer
là,
tous les sondages que voilà. Vous voulez, il n'y a pas de problème.
Le RMC Football Show arrive tout de suite avec Jean-Christophe Drouet. Salut JC.
Salut à tous. Il est répété votre duo ou pas?
Non. Là non.
On sent la fin de semaine.
On sent toute l'impro totale, oui.
Salut Willy. Salut,
salut JC.
Comment tu t'appelles déjà? Jean-Louis.
Oui, il s'appelle Jean-Lucas maintenant. Jean-Lucas, comme le nouveau joueur de Lyon.
Exactement. Incroyable gardien quand même, Jean-Louis. Vous voulez connaître le programme?
Non.
Oui, bien sûr.
Mais si, on est ensemble de 20h à minuit, le RMC Football Show suivi de l'After est spécial, quasiment spécial autour des Bleuets. La deuxième rencontre ce soir entre la France et la Croatie, ça débute à 21h. On sera en direct de Saint-Marin dans quelques instants. Et puis des nouvelles de l'équipe de France à deux jours d'affronter le Brésil en huitième de finale de la Coupe du Monde féminine. Sans oublier, je sais que vous en avez parlé,
bien sûr,
la CAN, 22h, ça débute avec Égypte-Zimbabwe. On sera en direct avec Timothée Mémon. Sachez que le stade est déjà archi comble, rempli à 3h coup d'envoi. Je sais que vous en avez parlé. Arrêtez de me prendre pour une truffe.
Je ne peux pas faire nos blagues.
Je pensais
que tu dis sachez que.
Oui, ouais. Oui, ça...
C'est la façon dont tu le dis.
Alors, non, mais il ne s'adressait pas à nous quand tu dis sachez que.
Non, François, sur le coup.
Non, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent et vous le savez, pour Ici c'est Willy, ils sont très nombreux.
Bah, bien
donc
sûr.
Si vous n'avez pas entendu le début de l'émission, sachez que, il y a le replay, mais sachez que c'est comble au Caire.
Très bien, et puis l'after dans la foulée, bien sûr.
L'after, forcément, avec nos amis Ludovico Bragnac et Jonathan Macardy. Sachez qu'on reviendra forcément le débrief du match France-Croatie, mais il y aura une large page Mercato, car il s'est passé quelque chose de très important, comme tous les jours, sur RMC.
C'est parti pour une grande soirée, donc, avec Jean-Christophe Drouet. Merci, Willy.
Ah bah, bonne soirée, bon week-end.
Salut, Willy.
Ciao.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy.